Comment réagir et que faire quand on a une vidéo découverte qui explose, qu'on a attendu depuis des mois, peut-être des années pour certains. C'est-à-dire une vidéo qui fait du x10, x20 par rapport à d'autres vidéos qu'on a l'habitude de proposer. On a pour moi deux cas de figure. C'est-à-dire qu'on a la vidéo, une vidéo qui devient virale, mais qui reste dans notre domaine. Donc c'est-à-dire que ça reste notre niche, donc c'est très bien. Et dans le deuxième temps, plus délicat, c'est une vidéo qui devient virale, mais qui n'est pas exactement dans notre niche. La question, et c'est une question qu'on nous pose, c'est comment réagir ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faut continuer à faire ce genre de vidéo ? Est-ce qu'il faut changer de domaine ? Est-ce... Voilà, plein de questions comme ça. Donc voilà, Sylvain, fais-toi plaisir.
Gros sujet. Déjà, c'est bien, c'est déjà bon signe. C'est-à-dire qu'il y a tellement de créateurs qui n'ont jamais de viralité sur leurs vidéos que déjà, c'est quelque chose qu'il faut essayer de rechercher. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Il y a relativement peu, finalement, de créateurs qui arrivent à faire grossir leur audience de façon très, très, très progressive en gagnant, je sais pas, 50 vues par nouvelle vidéo pendant 5 ans d'affilée. Et finalement ils arrivent à 100 000 vues par vidéo. C'est quand même assez rare. La plupart du temps, en fait, on a une audience fidèle qui est un petit peu toujours la même, et puis à un moment on va avoir un boost de visibilité par de la viralité, et d'un seul coup on va gagner 500 1000 nouvelles personnes qui seront ensuite fidèles, et ça va monter comme ça par palier. Donc c'est une bonne chose déjà de base. Mais évidemment, oui, comme tu le dis, il y a différentes sortes de viralité. Il y a la viralité qui convertit, où vraiment les personnes ont découvert le contenu et se sont dit « Waouh, mais c'est trop bien, où était cette chaîne toutes ces années ? Je m'abonne et je sais que je vais aimer les suivantes. » Et la viralité qui convertit pas, qui est la viralité de « Ah, trop cool, c'était très bien, je mets un petit like et puis je pars et je reviens pas. » Et donc voilà, tout ça pour dire que toutes les viralités ne sont pas égales et alors, toutes ne vont pas servir vos intérêts.
Exactement, donc on va commencer par la viralité attendue et qu'on souhaite à chaque youtubeur, c'est-à-dire, comme tu le dis, hein, ce sont des créateurs de contenu qui vont avoir une chaîne, qui vont faire du contenu régulièrement parce que c'est des bonnes pratiques, mais qui ont pas les résultats attendus, mais qui sont coriaces et qui continuent. Et à un moment, il y a une vidéo, comme je l'ai dit, hein, qui fait x10. Donc, dans ce cas-là, comment doit réagir le créateur de contenu ? Alors, on est d'accord, il est content, mais... c'est quoi les bonnes pratiques à faire après avoir eu une vidéo virale qu'on a attendue depuis des mois, peut-être des années pour certains?
Ouais, alors première chose, qui peut paraître contre-intuitif, mais c'est de répondre à tous les commentaires de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de répondre aux commentaires de notre communauté quand on a un nombre de vues relativement stable. Et quand on a de la viralité, d'un seul coup, on se retrouve sous une montagne de commentaires et on peut se dire « c'est trop, allez, cette fois-ci, je prends pas le temps de répondre ». Alors qu'en fait, c'est le moment où vous devriez le faire parce que c'est la fois où vous avez le plus de nouvelles personnes à convaincre. Et donc finalement, tous ces gens qui mettent des messages sous votre vidéo virale, s'ils voient que vous leur répondez, ça va marquer leur esprit et être beaucoup, beaucoup plus de chances qu'ils deviennent... voilà, ça vous coûte pas cher, en fait, de gagner des nouvelles personnes ouais. fidèles dans cette configuration-là. Donc, il faut prendre ce temps-là. Ça, c'est important et on ne le dit pas souvent sur les vidéos virales. La deuxième chose, c'est que vous avez probablement trouvé un truc qui a fait tilt dans la tête des gens. Parce que l'algo, vous savez, hein, l'algo, il n'y a rien de magique. Il n'existe pas vraiment de vidéos qui deviennent virales par hasard aujourd'hui. C'est parce que ça a plu aux gens, soit parce que le sujet a fait cliquer, soit parce que la vidéo était tellement bien faite ou le sujet tellement important que les gens sont restés jusqu'au bout, etc., etc. Vous connaissez le truc. Donc, ce qui est important, c'est de réussir à identifier pourquoi cette vidéo est devenue virale. C'est pas toujours facile, mais vous devez absolument le faire, c'est votre job. Et ensuite, essayez de voir si vous pouvez pas répliquer ça au moins une fois ou deux. Généralement, en fait... Voilà, dites-vous que votre but avec cette vidéo-là, c'est vous avez un panel de nouvelles personnes que YouTube a identifiées pour votre chaîne. Vous devez absolument ne pas les perdre. Vous devez en convertir un maximum. Et pour les convertir, vous savez comment ça marche sur YouTube, il faut que ces personnes regardent une deuxième ou une troisième de vos vidéos. Donc certaines de ces personnes-là vont aller voir d'autres vidéos de votre chaîne et vont s'auto-convertir toutes seules. Mais la plupart des gens vont juste regarder cette vidéo puis plus rien après. Et donc en fait, ils vont attendre que YouTube leur suggère la nouvelle vidéo que vous avez postée. Et si celle-là est complètement différente... Bah, il y a des chances que soit ils cliquent pas, soit ils soient pas convaincus et ils repartent. Donc en fait, alors, généralement, c'est bien de faire une petite série de 2-3 vidéos qui soit abordent un peu le même sujet, soit un sujet un petit peu en parallèle, soit un angle un peu pareil, un peu sur la même mécanique pour essayer de convertir les gens derrière. Mais il faut pas en faire non plus 10 d'affilée parce qu'après, il y a le deuxième risque qui est de s'éloigner de sa ligne éditoriale.
C'est un peu sur ça que je t'attendais, c'est-à-dire que on est d'accord, comme tu l'as dit, il faut déjà identifier pourquoi elle a fonctionné. Est-ce que c'est l'angle, le sujet, ou est-ce que c'est le format? Parce que c'est vrai qu'on a aussi des créateurs de contenu qui font des tests, et nous, on encourage en tout cas les petites chaînes à faire des tests sur différents formats, différentes façons d'écrire et d'amener ses vidéos. Et c'est important de savoir si c'est le format ou l'angle. Et donc, c'est très important de noter ça, c'est que effectivement, je pense que c'est intéressant quand vous sentez que c'est l'angle, le sujet qui a intéressé, et ça, je pense que tu l'as très bien résumé, lisez les commentaires, hein, lisez les commentaires, vous allez comprendre d'où vient cette viralité et pourquoi la vidéo a plu à une audience. Comme tu le dis, c'est, je pense, le meilleur move à faire, c'est de se dire, ok, j'ai un sujet, j'ai un angle qui a plu, qu'est-ce que je pourrais ajouter à ce sujet pour rester plus ou moins dans la même thématique et pour pouvoir un peu consolider cette base de nouveaux abonnés. C'est un peu ça que tu es en train de dire.
Oui, ouais, c'est pas toujours évident d'identifier si faut rester dans la même thématique ou si c'est le format ou si c'est... Prenons un exemple. Je sais pas si c'était lui qui nous avait ramené, mais prenons l'exemple de la chaîne de Nibor. Voilà, on a discuté avec Robin hier, qui est le créateur derrière la chaîne Nibor, qui explose littéralement depuis quelques mois. Moi, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, je crois que c'est la première fois de ma vie, quasiment, sur YouTube, où après trois vidéos, je suis conquis. Après trois vidéos, je sais que je clique sur n'importe quelle vidéo que tu sors, parce que j'adore vraiment ta façon de présenter les choses, etc. Donc, en fait, j'adore le mix, chez lui, c'est ça, c'est le mix entre un sujet pop culture, mais très très grand public, type Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc. Et surtout la façon dont il la traite. Il y a toujours de l'humour, on se marre, on apprend des trucs, il y a le bon mix à l'intérieur. Et donc, en fait, si sa première vidéo qui a fonctionné était sur Harry Potter, je crois, ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les autres soient forcément sur Harry Potter. S'il avait étudié le truc, il ne se serait pas dit, certains créateurs se diraient, c'est parce que c'est Harry Potter, donc je vais faire que des vidéos Harry Potter. Or, c'est pas ce que lui a envie de faire, c'est pas sa vocation. Et donc, en fait, lui, il est assez malin, et puis il connaît bien YouTube depuis longtemps, c'est pas sa première chaîne, pour avoir compris que c'est le sujet pop culture grand public, pris sous un certain angle de le méchant, en fait, c'est un peu un fragile, quoi. Et donc, cet angle-là, il a bien plu parce que ça surprend. Et du coup, il se dit, ce petit format-là, je prends le méchant, je montre comment il est fragile, et je fais de l'humour là-dessus, tout en documentant. Bah en fait, ça me permet de traiter plein de sujets différents. Et donc, il réplique ça à chaque vidéo, et ça refait viralité sur viralité sur viralité. Et sa chaîne, elle explose. Je crois qu'il fait plus de 200 000 vues par vidéo en ce moment. Et donc, c'est génial, et tant mieux pour lui. Mais parce qu'il a réussi vraiment à avoir cette finesse dans l'analyse que peuvent ne pas avoir des créateurs qui font du contenu depuis 5 ans, qui ont leur petite vidéo pépère et qui d'un seul coup ont une vidéo virale, et ils peuvent se tromper dans l'analyse et se dire « Ah bah, celle-là, c'est la première fois où... j'ai pas écrit de script, par exemple. » Et il se trouve que c'est celle qui a marché. Donc, je vais arrêter d'écrire des scripts. C'est peut-être pas pour ça qu'elle a marché, celle-là. Peut-être qu'il y a eu d'autres raisons derrière. Et donc, voilà, cette analyse n'est pas toujours facile.
Ouais, comme tu dis, c'est certains biais qui peuvent être compliqués à se détacher. Hein. Comme tu dis, oh tiens, j'ai fait une miniature plus couleur rouge et donc j'ai entendu sur Internet que le rouge, ça attire plus, donc je vais faire que des miniatures rouges. Bon, et finalement, la prochaine, comme l'angle est beaucoup moins intéressant. Et pour en revenir sur Nibor, effectivement, il y a ce côté de j'ai trouvé un format qui plaît à une certaine audience, une audience un peu, comme tu le dis, pop culture, geek, la trentaine, qui ont baigné dans cet univers un peu héroïque fantasy. Et il y a aussi ce que lui, parce qu'on le connaît personnellement, lui, il a toujours rêvé de faire un format un peu d'humour où il peut se mettre en scène. Si je ne dis pas de bêtises, il aimerait être acteur. Donc il y a ce côté, il a envie de faire plaisir à son audience tout en se faisant plaisir. Et ça n'a pas été facile pour lui, attention, hein, parce que, on aime bien dire que sa chaîne explose, mais tu l'as souligné, il a une grande connaissance de YouTube, ça fait des années qu'il fait des tests aussi, hein, et c'est pour ça que c'est toujours important de le rappeler.
Il y a eu beaucoup d'échecs avant.
C'est pas sa première chaîne. Il y a eu beaucoup d'échecs avant, et les échecs sont juste des marches vers le succès. Et donc lui, il a trouvé un format qui lui permet d'être beaucoup plus serein et d'envisager la suite déjà plus facilement, parce que ça lui ouvre beaucoup d'autres sujets. C'est le format. Par contre, comme on parle un petit peu de ça, il y a ce côté, j'aimerais bien qu'on en parle, c'est beaucoup moins algorithme, beaucoup moins YouTube, voilà. C'est plutôt le côté pression du résultat. Parce que ça, On le voit avec encore plus avec Robin, c'est-à-dire comment aujourd'hui, quel conseil en tout cas toi tu pourrais donner pour toutes les personnes qui d'un coup ont une vidéo virale et qui se posent énormément de questions et qui se mettent énormément de pression sur la prochaine. Parce que imaginons, tu fais des vidéos qui font 5 000 vues, 2 000 vues, 3 000 vues, voilà. Un score qui est honorable, hein, on va pas, en tout cas moi j'ai rien contre ça. Et tout d'un coup, tu as une vidéo qui fait 100 000 vues. Tu as forcément cette pression de te dire, ok, la prochaine, elle doit être parfaite et je dois, c'est très important, je dois refaire 100 000 vues. Et on sait très bien que la pression, ça peut être difficile à gérer pour certains créateurs de contenu. Donc voilà, toi qui as l'habitude de discuter avec des youtubeurs, qui a aussi une expérience là-dedans, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui vit ce genre de situation ?
C'est chaud, mais c'est super intéressant parce que c'est vraiment le sujet psychologie du youtubeur, oui, que j'aime bien du coup. Parce qu'en fait, il y a plusieurs pressions différentes en même temps. Celle dans laquelle j'arrive à me détacher moi, à titre personnel, plus facilement, c'est celle du nombre de vues. C'est-à-dire que quand j'ai une vidéo qui fait, tu vois, la vidéo Villebrequin, elle est à 170 000 vues, la vidéo suivante, je ne me disais pas qu'il fallait que je fasse une vidéo à 100 000 vues, je m'en foutais. Tout ce que je voulais vérifier sur la vidéo suivante, c'était qu'elle fasse un peu plus de vues que mon nombre de vues de base habituel. En fait, je veux juste voir cette communauté de fans de la chaîne grandir un petit peu. Et pour moi, si je fais même 20% de vues en plus que les vidéos d'avant, c'est bien, oui, on a gagné quelque chose, voilà, et ça me suffit. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y a certaines personnes qui disent, oh, ça y est, maintenant que j'ai fait 100 000 vues, bah, il faut que je fasse 100 000 à chaque fois. Et ça, oui, c'est un vrai piège parce que c'est la recette pour être déçu quasiment à tous les coups. Parce que la viralité est quelque chose de très peu réplicable, sauf si on s'appelle Robin, encore une fois. Mais pour la plupart des gens, c'est difficile de répliquer à chaque fois. Il y aura toujours un moment où il y a un truc qui va moins bien marcher et il ne faut pas que vous en soyez déçu. Donc ça, c'est une chose, mais c'est la plus simple à comprendre, je pense, celle-là. Après, il y a une deuxième pression dont on parle beaucoup moins, je pense, qui est celle de notre perception de l'algorithme. On se dit, ces 100 000 personnes là, qui ont vu cette vidéo, YouTube va forcément leur montrer ma prochaine vidéo. Et donc, je vais avoir tellement de gens qui ne sont pas déjà convaincus par mon contenu, etc., qui vont voir ma nouvelle vidéo, que je peux pas me planter, il faut qu'elle soit vraiment parfaite, il faut qu'elle soit nickel, parce que c'est ma seule chance de les... En fait, on a ce sentiment que c'est notre seule chance de les convaincre, et que si jamais on se rate là et qu'ils cliquent pas ou qu'ils regardent pas, on les perdra à tout jamais. C'est là vraiment l'impression qu'on a. Et même moi, qui sais que c'est pas le cas, je l'ai quand même ce sentiment, tu vois. C'est vraiment bizarre, c'est un truc vraiment étrange. C'est l'impression de la seconde chance, tu vois, c'est notre deuxième chance de les convaincre, après c'est tout, quoi. Et celle-là, elle est vraiment dure, c'est celle-là que je trouve qui fait beaucoup procrastiner ou revoir 10 fois ton script, ou te dire, ah, mais attends, ce projet-là de vidéo, il n'est pas suffisamment ambitieux. Ou bien les petits formats communautaires que je faisais avant, bah, je les garde, je les referai plus tard une fois que j'aurai convaincu ces gens. Et du coup, on se retrouve avec des chaînes qui font des pauses de 2 mois parce qu'ils n'ont pas fait le truc parfait. Et c'est un vrai piège, quoi. Et un piège dans lequel je tombe moi-même. Donc, tu vois, je le comprends. Oui. La réalité des algos, c'est qu'aujourd'hui, ils savent très très bien distinguer. Vous pouvez très bien, je sais parce qu'on l'avait fait sur une chaîne d'un client, vous pouvez faire une vidéo qui a plus de 100 000 vues et la vidéo suivante faire moins de 1 000. Vous pouvez faire une vidéo suivante où en fait, non, YouTube ne la montre pas à tout le monde parce que dès les premières personnes, YouTube voit que les stats sont pas bonnes et YouTube arrête de la montrer. Et si la vidéo suivante, elle marche pas non plus, elle va à nouveau faire 200, 300 vues. Mais si la vidéo d'après, elle est très bonne, YouTube va aller retrouver les 100 000. Hein. YouTube va les retrouver très très vite et va leur reproposer la très bonne vidéo en fait. Donc c'est pas grave. Et YouTube prend vraiment chaque vidéo l'une après l'autre. Et YouTube garde en mémoire le fait que c'est bon, ces 100 000 personnes là, un jour, ils ont cliqué, ils ont aimé cette vidéo. On peut, si les stats sont bonnes, aller les rechercher. Donc c'est de toute façon un truc qui est bon. Et alors, je sais pas s'il y a un critère de temps, mais on peut imaginer que, on va dire, YouTube va garder en mémoire un peu cette audience réserve pendant 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Même si c'est pas aussi simple que ça, mais globalement, c'est ça qu'il faut retenir.
Ouais, donc comme tu dis, il y a aussi ce côté, on en avait parlé dans un autre épisode, ce côté un peu perfectionniste de « ça y est, j'ai la pression, donc je veux que les choses soient parfaites ». Et on sait très bien que ça peut être très dur à gérer pour certains, ce côté d'améliorer chaque petit détail en pensant que c'est ça qui va faire le succès de la vidéo. Et pour résumer un petit peu ce que tu dis, tu as aussi deux manières de réfléchir par rapport à ton parcours sur YouTube. Je m'explique. Quelqu'un qui a une toute nouvelle chaîne, qui a fait à peine 5-6 vidéos et qui va avoir une vidéo virale d'un coup, il va énormément miser dessus parce qu'il en est au tout début de son parcours. Alors que toi, comme tu l'expliques aussi, tu as ce côté un peu, pas un ancien de YouTube, parce que je trouve que c'est moche, mais c'est-à-dire que tu as eu l'habitude d'être sur YouTube et tu n'as pas le même rapport à YouTube que quelqu'un qui commence une chaîne YouTube, qui des fois... Je reprends les expressions de certains clients ou de certaines personnes avec qui on discute, qui vont faire du all-in sur YouTube, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être arrêter de travailler. Comme tu dis, c'est peut-être la chance à un moment de basculer et de devenir YouTuber à plein temps. Alors que toi, quand tu as ce genre de viralité, tu es déjà beaucoup plus installé et tu n'attends pas cette viralité pour continuer ta chaîne ou pour continuer à la faire grandir. Tu sais très bien qu'on est plus sur du long terme et parce que ça fait des années que tu as cette chaîne, alors qu'un tout nouveau YouTuber, il a ce côté un petit peu excitant aussi de se dire ça y est, mon rêve, parce que pour certains c'est vraiment un rêve, mon rêve est en train de se réaliser et les prochaines années sont très dépendantes des résultats de mes peut-être 2-3 prochaines vidéos. Donc effectivement, c'est pas facile à gérer. Il y en a qui sont plus sujets à ce type de pression, qui ont l'habitude. Et il y en a, je pense, qui, comme tu le dis, qui peuvent un petit peu se laisser emporter par ce côté procrastination, ce côté pression. Et ça peut être même, je pense, très néfaste, peut-être pour certaines personnes qui ne sont pas prêtes à ce genre de viralité. Parce que la viralité, ça a du bon. Mais on le voit aussi, ça peut poser énormément de problèmes.
Puis ça crée la dépendance, il y a de la dopamine là-dedans aussi. C'est vicieux parce que quand on... Pareil, je vois avec un autre client aussi qui a une chaîne qui marche très très bien, qui fait des vidéos sur lesquelles il travaille beaucoup, qui est pourtant établi depuis longtemps. Sa chaîne YouTube n'est pas forcément établie depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui est âgé, qui a son travail, enfin voilà. Et qui a l'habitude de faire des vidéos qui font 50, 100 000 vues ces derniers temps. Et même s'il me dit, je sais que la prochaine vidéo n'est pas sur un sujet qui va devenir viral, c'est pas très grave, etc. La vidéo fait 10 000 vues. Dans un certain sens, il a un peu le seum quand même, tu vois, en disant, j'ai l'impression que je l'ai raté. Alors que moi, je regarde les stats et je vois l'engagement sur les 7 premiers jours, etc. Et je vois que c'est sa communauté qui a réagi à fond. C'est des très, très bons signaux. Et sa communauté, clairement, elle a bien grossi grâce à toutes ces dernières vidéos virales. Et donc, même cette vidéo qui a fait, entre guillemets, que 10 000 vues, c'est des très bons signaux. Mais on reste un petit peu, on associe un peu le nombre de vues à une réussite ou un échec, quelque part. Je digresse. J'aime beaucoup l'analogie que tu as fait sur le fait qu'il y ait deux... Enfin, pas l'analogie, je vais faire une analogie, moi. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait effectivement deux façons de créer du contenu... différentes entre ceux qui démarrent et qui ont de la viralité très vite et ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont trouvé d'autres moyens de se satisfaire de leur chaîne YouTube. Et je ferai du coup un parallèle avec la création d'entreprise. Une chaîne ancienne qui a déjà eu des mini-viralités, qui a construit son audience, etc., et qui d'un seul coup a une vidéo qui fait 100 000 vues, c'est un peu l'équivalent d'une entreprise qui est établie, qui a ses clients, etc., et qui un jour va avoir un relais dans la presse et d'un seul coup beaucoup de projecteurs sur elle. Cette boîte-là, elle ne va pas d'un seul coup paniquer et se dire ça remet tout en question. Elle va juste se dire super, c'est l'occasion de grossir un peu, on sait comment on va capitaliser là-dessus, etc. Donc c'est presque rationnel en fait comme réaction. Alors que de l'autre côté, on a presque plus un profil start-up finalement, de quelqu'un qui se dit je teste le marché, je teste des trucs au début. Oh, il y a de la viralité. Donc j'ai le potentiel de faire un truc énorme là. Donc soit j'y vais à fond. J'y vais all-in, donc all-in ça peut vouloir dire effectivement je quitte mon job, je passe tout mon temps dessus ou je commence à déléguer, je m'entoure de personnes qui peuvent m'aider à accélérer sur le truc, mais ça veut dire investir, donc prendre des risques c'est-à-dire que tout le monde n'y arrive pas derrière quoi, il y en a qui se plantent et il y en a qui y arrivent. Et c'est vrai que moi je vais avoir plus de mal à parler à cette audience-là parce que je ne suis pas comme ça moi de base, je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre des risques ou qui a un profil vraiment start-up. Mais du coup, j'imagine que la pression est encore très 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 différente. C'est encore autre chose parce que on se dit, on en a cela dit des clients comme ça qui viennent nous voir et qui disent, moi j'ai besoin d'atteindre les 100 000 abonnés au bout d'un an, sinon j'arrête tout. Oui. Et du coup, je respecte beaucoup les gens qui arrivent à se mettre dans cet état d'esprit là. Ouais, j'aime bien. Je sais pas, c'est des bons profils. Je tourne en rond là. Vas-y.
Alors, c'est une très bonne transition, parce que je veux qu'on enchaîne sur la deuxième viralité, la viralité moins attendue, parce que c'est une vidéo qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou c'est un thème qui n'est pas forcément le thème privilégié de notre chaîne. Et donc, c'est parfait parce que tu parlais en mode start-up, c'est-à-dire, voilà, vous avez aujourd'hui une chaîne qui parle, je ne sais pas, d'immobilier, peu importe. Et tout d'un coup, vous faites une chaîne sur, enfin, vous faites une vidéo sur les cryptos. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Enfin, si, je le sais, mais bref. Et tout d'un coup, votre chaîne, enfin, cette vidéo, elle fait x10, x50 par rapport à vos vidéos classiques sur l'immobilier. Et donc là, vous allez attirer une nouvelle audience qui vient pour un sujet sur lequel vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire des vidéos. Et donc là, co comment réagir? Comment réagir? Est-ce qu'il faut se dire, OK, bah, c'était un coup de chance, tiens, j'ai testé quelque chose, mais je vais rester dans ma voie. Et donc, comment vont réagir les nouveaux abonnés? Comment l'algorithme va réagir par rapport à ça? Ou au contraire, parce que certains le font, est-ce que c'est peut-être pas un moment de bascule au niveau de la chaîne, c'est-à-dire changer un petit peu de sujet? Alors, si je t'en parle, c'est parce que j'ai vu dernièrement, je sais pas si tu connais Théodore, un youtubeur un petit peu divertissement, qui travaillait beaucoup avec Joyka et Le Lot. Et en fait, c'est un jeune qui rêve d'être connu depuis qu'il est tout petit. Et en fait, lui, son principal, son, comment dire, son thème principal, c'était la musique. Il s'est fait connaître en faisant des parodies sur YouTube. Et en fait, le côté YouTube a pris le pas sur le côté musical. Et il s'est retrouvé donc à faire une chaîne divertissement qui a très bien fonctionné, hein, plusieurs millions d'abonnés. Et il a fait un move là il y a quelques mois où en fait, il s'est rendu compte qu'il était parti dans la mauvaise voie. Par l'appât l'appât du gain de YouTube et de ce côté de OK, je fais plein d'abonnés en faisant des vidéos YouTube, je vais devenir YouTubeur. Et finalement, il s'est dit, bah non, c'est pas ça que je veux, je suis parti de la mauvaise direction. Donc il a tout supprimé, il a arrêté pendant des mois pour se concentrer sur la musique et faire un album. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à ce genre de réflexion que peuvent avoir les gens, c'est OK, je fais une vidéo qui n'est pas du tout mon domaine, est-ce que je dois aller à fond dessus, où je dois tenir le cap et toujours garder mon domaine.
D'accord, ouais, c'est encore différent parce que lui, du coup, il met dans la balance d'un côté créer des vidéos YouTube et d'un autre côté faire sa passion, vivre de sa passion.
Ouais.
C'est encore différent de
C'est
ceux
encore
qui
différent, ouais.
créent des vidéos sur un sujet qui les passionne et puis on fait une vidéo sur un autre sujet qui a décollé. Alors, moi, j'ai un autre exemple, c'est Charles Chilley, dont j'avais bossé avec lui pendant quelques temps. Qui lui était, alors c'était pas le Lot, lui c'était la Redbox. Il était à la Redbox et donc lui vidéaste, il fait plein de super vidéos sur le contenu production vidéo pour les professionnels, etc. Vidéo et photo. Et il se trouve que du coup, comme il était à la Redbox, il avait fait des contenus avec AMXM, avec Cyril MP4 et tout. Et sur sa chaîne, les contenus avec AMXM faisaient 10 fois plus de vues que les autres. Et c'était une vraie problématique. Et il disait. J'ai bien conscience que YouTube fait partie aussi de mon modèle économique pour aller chercher des sponsors, des trucs comme ça. Mais d'un autre côté, je dois garder mon image de professionnel de la vidéo, etc. Et quand je fais le con avec AMXM, bah, ça fait beaucoup de vues, c'est bien pour les sponsors, mais j'abîme mon image de professionnel de la vidéo à côté. Comment j'équilibre un peu les deux? Et c'était assez difficile. Et en fait, l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre à ce moment-là, pour revenir sur ton exemple du gars de l'immobilier qui parle de crypto. D'un seul coup, vous avez deux façons de réagir. Soit vous vous dites, peu importe, moi c'est tout pour, soit tout pour l'argent, soit tout pour la gloire, soit tout pour devenir youtubeur. Et dans ce cas-là, vous dites, je prends le virage, je parle plus que de crypto parce que je sais que j'ai, peu importe le sujet, moi je veux y aller, je veux devenir super célèbre, super famous. Et si vous avez cette force-là en vous, tant mieux. Moi je l'ai pas perso, mais si votre motivation première n'est pas autour du sujet qui est traité, mais autour des résultats que ça peut apporter. Allez-y à fond, prenez le nouveau sujet, allez-y à fond. Le cas le plus courant qu'on a, c'est généralement effectivement quelqu'un qui a fait un pas de côté, parce qu'ils sont intéressés par d'autres sujets, ils ont voulu tester, etc. Et donc dans ce cas-là, je reviens toujours à la même chose, c'est comment on peut convertir cette nouvelle audience. Et donc, la pire façon de convertir, c'est de dire j'ai fait ma vidéo crypto qui est devenue virale, je refais une vidéo immobilière comme avant, c'est ma vidéo suivante, puis je repars exactement sur ce que je faisais avant. Là, vous doutez bien que sur 1000 personnes qui vous ont découvert sur la vidéo crypto, il y en a peut-être, j'en sais rien, une ou deux qui vont peut-être se dire « Oh bah il se trouve que finalement la façon dont il parle de l'immobilier, ça me plaît aussi éventuellement. » Et donc c'est plutôt une très, très mauvaise façon de faire. Évidemment, parler que des sujets crypto dans lesquels vous n'êtes pas spécialiste en plus et tout, c'est pas forcément une bonne idée non plus, parce que bah, vous allez avoir peur aussi de perdre votre cœur d'audience que vous aviez construit sur l'immobilier, qui peut-être vous achète des prestats ou des trucs comme ça. Et donc, comment on convertit les deux? Généralement, c'est en mixant les sujets. Et donc, bah, probablement, faire une vidéo sur alors la crypto et l'immobilier, il y a sûrement un ou deux sujets à traiter qui peuvent mixer les deux.
Allez, ouais.
Je ne sais pas, peut-on investir des bitcoins pour acheter un appartement? J'ai acheté un appartement en bitcoin. Voilà, on mixe un petit peu les deux. Comment on amène cette audience qui est intéressée par la crypto à s'intéresser à notre passion qui est l'immobilier? Et donc, en fait, souvent, le bon move, c'est de garder le focus principal sur les vidéos suivantes sur le sujet qui est devenu viral. Donc, faire des titres très crypto et dans la vidéo, amener les gens à s'intéresser à l'immobilier. Donc, vous pourriez même faire un truc du style, je ne sais pas moi, j'ai trouvé l'investissement crypto le plus rentable de 2024. Donc, ça ressemble à une vidéo 100% crypto. Et au bout de 20 secondes, vous expliquez que c'est un truc dont personne ne parle. Mais en fait, acheter un appartement avec du bitcoin, c'est trop bien parce que si et ça. Et après, vous parlez majoritairement d'immobilier. Et vous aurez au moins fait cliquer cette audience. Vous leur aurez donné une bonne raison de s'intéresser à l'immobilier. Et après, vous pouvez pitcher votre chaîne correctement en disant bah, « moi, je vais parler d'immobilier, des fois avec de la crypto, des fois avec d'autres choses. Si ça vous intéresse, allez-y. » Et ça, c'est la bonne façon de faire. Et vous allez le faire sur 2-3 vidéos, vidéos qui arrivent avant de pouvoir reprendre des sujets immobiliers comme vous aimiez avant. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je procéderai.
Oui, non, effectivement, je pense que c'est comme ça. Après, nous, on connaît certaines personnes qui sont aujourd'hui, qui ont du mal parce qu'ils ont une vidéo virale qui drive les vues et les abonnés de leur chaîne, mais qui n'est pas vraiment dans le thème. Et ils ont du mal avec cette vidéo parce qu'elle est toujours en top, en recherche, ou la vidéo la plus vue chaque mois de leur chaîne, alors que ça fait peut-être 6 mois, 1 an qu'elle a été publiée. Et on le sait qu'ils ont du mal à vivre avec ça, en fait, parce que ils n'arrivent pas à convertir cette nouvelle audience, et ils ont l'impression, alors là je vais parler aux spécialistes de l'algo, ils ont l'impression que ça tue leur chaîne parce que YouTube ne met en avant que cette vidéo et donc attire à chaque fois, chaque jour, chaque mois une audience qui ne va pas être du tout intéressée par tout le reste de la chaîne. Niveau algo, est-ce qu'il y a une réalité derrière ou pas?
C'est dur à dire. Honnêtement, c'est très dur à dire parce que ça dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs. J'aime bien toujours reprendre l'exemple de cette cliente qui avait une chaîne où pendant la pandémie, elle avait fait un tuto pour apprendre à se couper les cheveux soi-même. Cette vidéo est devenue ultra virale, plusieurs centaines de milliers de vues, et elle continuait de driver, je ne sais plus exactement combien c'était, mais 5 ou 10 000 vues par mois. Alors qu'à côté, elle avait décidé de faire des vlogs qui n'avaient rien à voir. Et donc, elle publiait 3 vidéos par semaine de vlogs qui faisaient 50 vues. Et donc, elle avait peut-être moins de 1000 vues par mois sur les vlogs. Et elle avait plus de 10 000 personnes qui venaient et qui s'abonnaient parce qu'ils avaient appris à se couper les cheveux. Et c'est vraiment un cas extrême où c'est la première fois où je lui ai dit « Là, je pense qu'il faut qu'on teste de mettre ta vidéo en non répertorié et voir ce que ça fait sur l'engagement des nouvelles vidéos et est-ce qu'on voit qu'on arrive à construire un truc parce que ça ne prenait pas, la sauce ne prenait pas sur ces nouvelles vidéos. Et donc, si c'est aussi massif que ça, on peut imaginer que peut-être ça peut pénaliser un petit peu les stats de visionnage sur ces nouvelles vidéos parce que tous les mois, il y a peut-être 1000 nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne et que YouTube teste probablement les nouvelles vidéos auprès de ces gens-là et qu'à chaque fois, ils ne répondent pas. Et donc, peut-être ça peut jouer, mais c'était vraiment un cas extrême. Et la plupart du temps, on n'est pas dans des cas aussi extrêmes que ça, en fait, quasiment. À chaque fois, quand on a des créateurs qui nous parlent de ça, ils ont leur vidéo principale, qui, je vais reprendre d'autres chiffres un peu au hasard, mais qui peut-être effectivement amène 10 000 vues par mois sur un sujet qui est un peu off. Mais leur vidéo actuelle génère elles-mêmes 5 ou 10 000 vues par mois de toute façon. Et donc, YouTube sait très bien quelle est l'audience qui aime ces contenus, elle sait à qui recommander, etc. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de l'enlever. Mais après, sinon, j'ai une recommandation qui est relativement simple. C'est Alors déjà, il faut la mettre en non répertorié pendant quelques temps et la remettre en public après. Et de ce que j'ai pu voir, on l'a pas fait encore des centaines de fois, hein, mais les quelques fois où on l'a fait, la viralité revient après. Donc on perd pas la viralité si on la met en non répertorié, parce que ça peut être un risque.
Ouais.
Donc ça peut être un test, vous faites le test, vous voyez un peu si ça change quelque chose. Ça, c'est une chose. Et après, tout dépend en fait de ce que vous apporte cette ancienne vidéo. Est-ce que vous êtes une chaîne qui dépend énormément des revenus AdSense? Ou bien est-ce que sur cette vidéo, il y a de l'affiliation, je sais pas quoi, et que ça vous ramène du cash? Dans ce cas-là, c'est vachement dur quand même de cliquer sur le bouton mettre en non répertorié. Est-ce que ça vous amène juste des vues des abonnés? Si ça vous amène juste des vues des abonnés et que ça vous amène peanuts par rapport à votre entreprise ou par rapport à votre modèle économique, bah ça vous coûte pas très cher de la mettre en non répertorié. Donc dans ce cas-là, faites-le, puis vous voyez ce que ça donne derrière, quoi. Mais je peux pas aujourd'hui dire avec certitude c'est ça qu'il faut faire quand vous avez une vidéo virale qui est un
Oui,
peu
bien sûr.
différente de ce que vous faites, parce que voilà. Alors sinon, et si on veut vraiment essayer d'être malin, mais on n'y arrivera pas à tous les coups, c'est de se dire bah comment j'arrive à faire une deuxième vidéo qui serait parfaite pour cette audience qui arrive de cette vidéo-là et qui va convertir sur mes contenus actuels justement et qui va faire le lien entre les deux, en espérant que cette nouvelle vidéo soit toujours mise en suggestion à côté et qu'une partie de l'audience clique dessus et soit convertie. Mais c'est vraiment jamais une évidence. Vous pouvez mettre des chances de votre côté en vous disant que cette nouvelle vidéo, vous allez la mettre dans la description en disant si vous avez aimé cette vidéo, allez voir celle-là. Vous la mettez en écran de fin, vous la mettez en fiche,
Grande
vous la mettez
fin,
en commentaire épinglé pour essayer de créer cette connexion entre les deux et qu'un maximum de gens cliquent. Et voilà, ça peut être une stratégie si vraiment, vraiment vous voulez pas la mettre en non répertorié.
ok. Bon, bah, que de bons conseils. En tout cas, pour résumer, vous, enfin, de mon point de vue, je pense que vous devez chercher une vidéo virale sur votre chaîne. Vous devez tout faire. Idéalement, pour qu'elle soit dans votre domaine. C'est vraiment le move à faire. Même si les prochaines ne feront pas toujours les mêmes stats, mais c'est important pour certains types de chaînes, en tout cas, d'avoir ce que nous on appelle cette vidéo découverte, hein. Donc la vidéo découverte, c'est celle qui va beaucoup plus loin que votre audience et c'est celle qui va aller chercher une nouvelle cible, une nouvelle audience. Et ça, c'est bon pour une chaîne, hein. On le répète peut-être pas assez, mais une chaîne qui veut fonctionner sur le temps, qui veut se développer, ne doit pas faire que du contenu pour son cœur de communauté. Vous devez aller chercher toujours plus loin. Et même idéalement, pour 80% des vidéos, vous devez vous dire comment je vais chercher une nouvelle audience tout en stabilisant la nouvelle. Mais bon, normalement, la nouvelle, enfin, en tout cas, non, je veux dire tout en stabilisant l'ancienne communauté. Si elle vous suit, c'est qu'elle apprécie sûrement votre personne, hein, parce qu'au bout d'un moment, souvent, moi je dis on vient pour le sujet et on reste pour le créateur. Mais voilà, vous devez aller toujours chercher une nouvelle. Et sur certains types de chaînes, des chaînes un peu plus techniques, c'est bien d'avoir une grosse vidéo qui vous drive chaque jour, chaque mois, des nouveaux abonnés que vous allez convertir avec des vidéos qui feront peut-être 10 fois moins de vues. Mais sur le long terme, c'est vraiment ce qu'on peut vous recommander. Et c'est ce que nous, on cherche à faire avec nos clients, avec les personnes qu'on accompagne. C'est vraiment trouver ce banger qui va pouvoir vous suivre sur plusieurs années. Hein, sans mentir, oui, ça peut être sur plusieurs années. Vous pouvez avoir une vidéo, on en voit souvent, alors que ce soit sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, on peut voir des vidéos qui ont commencé très bas et qui font que d'augmenter. Chaque jour, chaque année, qui termine avec des scores de fou. Donc voilà, plusieurs choses à faire. Donc allez-y à fond, travaillez vos vidéos, travaillez l'angle, le sujet. Hein.
Ouais.
Je
Les
pense
trois
que c'est
quarts du temps, c'est
vraiment.
ce qu'on. Les trois quarts du temps, c'est ce qu'on fait pour nos clients. Déjà souvent, c'est pour ça qu'ils viennent nous chercher, parce qu'on sait faire cette partie-là. Et quand on travaille sur leur contenu avec eux, les trois quarts du temps, c'est pour aller chercher ce type de contenu-là. Et c'est effectivement ce que nous on appelle du contenu découverte. Et alors j'ai écrit il y a quelque temps une définition de ce que j'appelle du contenu découverte et que j'aime bien répéter. C'est une vidéo qui est accessible à des non-initiés pour faire découvrir votre chaîne et son univers. Donc ça veut dire il y a deux parties à l'équation. Accessible à des non-initiés, ça veut dire même si je ne sais pas ce que, enfin je n'ai jamais investi en crypto, je suis pas passionné de crypto, etc. Potentiellement ça peut m'intéresser de cliquer dessus. Donc, oubliez les histoires de même si vous dites les 10 cryptos pour investir en 2025, c'est pas accessible à un non-initié. Voilà. Par contre, pourquoi votre grand-mère devrait acheter un bitcoin pour votre anniversaire? Là, ça peut être un truc accessible à un initié parce qu'il y a un côté un peu nouveau, un peu bizarre, machin. Mais ça suffit pas parce qu'il faut que dans cette vidéo, vous fassiez découvrir votre chaîne et son univers. Donc, prendre un sujet large et grand public, mais dans lequel vous amenez les gens petit à petit à comprendre qu'est-ce qui vous êtes en tant que créateur, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous proposez sur cette chaîne. Et c'est un mix qui n'est pas facile à faire, parce qu'on arrive généralement très bien à faire des sujets très grand public, mais on reste un peu en surface, ou faire des sujets très deep, très profonds sur notre thématique, mais on reste dans notre cœur de communauté. Et là, il faut mixer les deux dans un seul et même format, mais c'est les meilleures vidéos, c'est celles qui vont vraiment driver votre chaîne par la suite. C'est ce que Robin fait très bien sur sa chaîne Nibor, et c'est ce que nous on s'efforce de faire avec nos clients aussi. Donc c'est vraiment voilà, c'est un format un peu magique sur YouTube. On n'y arrive pas à tous les coups, évidemment, mais statistiquement, je pense qu'on commence à être plutôt bon sur cette forme-là.
Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Alors, pour une fois, je vais faire un appel à l'action un petit peu différent. Alors, vous connaissez LinkedIn, blablabla. Non, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est quels sont aujourd'hui les sujets que vous aimeriez bien qu'on traite? Quelles sont les questions que vous vous posez sur YouTube, sur l'algorithme, sur, comme le dit Sylvain, sur la psychologie du YouTubeur? Nous, on aime bien débattre de tout ça. Mettez-nous ça en commentaire. On a la chance de ne pas encore avoir 15 000 personnes qui nous mettent des commentaires. On essaye de répondre, en tout cas, régulièrement à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et on se fera une joie d'y répondre. On est bien d'accord, Sylvain?
Ouais, carrément. À ce propos, on a eu un commentaire récemment qui disait que on parlait un petit peu trop de notre business pendant ces podcasts. J'ai pas répondu encore à ce commentaire, mais pareil, si c'est un sentiment que vous avez, nous en fait c'est notre quotidien, donc c'est pour ça que c'est assez logique pour nous d'en parler. Mais si vous trouvez que ça dérive un petit peu, vous parlez un petit peu trop de vous, j'aimerais qu'on parle un peu plus de YouTube, dites-le nous. Si au contraire vous trouvez que c'est un bon mix entre les deux, dites-le nous. Il n'y a pas de problème, nous on est prêt à s'adapter. On est là pour parler YouTube et débattre. Mais c'est vrai que comme notre quotidien, c'est notre entreprise, on a tendance à faire beaucoup de références à ce qu'on fait pour nos clients et tout ça. C'est pas un calcul qu'on fait de notre côté, c'est simplement
Non.
que on le vit tous les jours, donc c'est juste ça.
Oui, c'est.
Voilà.
Moi, j'aime bien qu'on partage nos expériences. On partage nos expériences en tant que passionné de YouTube, parce que même quand le boulot est terminé, je suis sur YouTube, je regarde des vidéos comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'entre vous. Mais comme tu le dis, oui, notre quotidien, c'est d'accompagner des gens sur YouTube. Et je pense que c'est peut-être plus intéressant pour vous qu'on fasse ce retour d'expérience vrai plutôt que comment dire, des préjugés, des alors je pense que j'ai vu que. Non, non, nous, on vit au quotidien des situations, on les vit pour nous, on les vit pour nos clients. Et on vous le dit, hein, quand c'est bien, quand c'est pas bien, ce qu'on a testé, ce qu'on n'a pas testé, on est totalement honnête. Et donc voilà. Et moi, j'aime bien dire pour ceux qui se plaignent qu'on parle trop de notre entreprise. Et on ne vous a pas forcé à venir nous écouter. Il y a plein de sujets où on ne parle pas de nos entreprises,
Il
enfin
t'a
de notre
touché ce
entreprise.
commentaire
Donc,
un peu quand même.
non, c'est pas qu'il m'a touché. En fait, je ne m'attendais pas à ce genre de commentaire. Encore une fois,
Ouais.
on fait pas du YouTube, nous, pour faire des vidéos virales. En tout cas, ce podcast n'a pas du tout cette vocation. Donc, j'étais là. Bah mec, qu'est-ce que. Enfin mec, ou en tout cas toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On parle de notre entreprise, de notre quotidien. Bon, en tout cas, est-ce que tu as trouvé des choses intéressantes? Parce que sur. On en a combien d'épisodes? 40, plus de 40, normalement celui-là sera. On est à plus de 40. Et ça va, je pense qu'on donne quand même pas mal de conseils. On n'a pas fait 40 épisodes sur notre entreprise. Donc bref, si vous êtes content et si vous n'êtes pas content, dites-le nous en commentaire. Donnez-nous des sujets sur lesquels on pourrait débattre, sur lesquels on pourrait vous aider. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas,
À très vite.
merci Sylvain et à très vite tout le monde. Ciao.
Ciao.